Alors voilà, aujourd'hui Jésus est un Dieu de gratuité et un Dieu d'oblation totale, donc qui se donne. C'est l'image de notre chemin, c'est notre vérité à nous. Jésus est un Dieu de gratuité et d'oblation totale. Il s'est tellement aimé les autres, il a tellement donné sa vie pour lui dans tous les détails de sa vie, pendant 35 ans, que même sur la croix, il l'a donné, il était en paix. Alors regardons un petit peu, on va faire différentes étapes. D'abord, Jésus est choyé par Dieu le Père. Et ça, c'est important. Matthieu 12, verset 18. Matthieu 12, verset 18, vous allez voir que il est important d'être dans l'amour de Dieu. D'être dans l'amour de Dieu. Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations, donc la sainteté. Donc, mon bien-aimé. Mais regardez bien, un bien-aimé qui est serviteur, c'est-à-dire qui est toujours en train de faire le chemin pour Dieu qu'il doit faire sur la terre. Il est toujours en train de faire les œuvres que Dieu lui demande. Et vous ne trouverez de paix dans votre vie et de grandeur que si vous faites les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est mis que la foi est un don, afin que nul de nous ne se glorifie, afin que nous pratiquions les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est tout le contraire de l'égocentrisme, du narcissisme et de tout ce que la psychologie moderne a enseigné. Pour réparer un couple, en psychologie, on fait de la transaction, analyse transactionnelle. Les deux jeux doivent trouver leur jeu. Et bien, avec Jésus, Jésus a mis son jeu de côté. Dans un couple, avec Jésus, c'est nous, à trois. Nous, à trois. Jeu, c'est fini. Et bien, c'est la même chose dans une église. Une église n'est pas une accumulation de jeux, c'est nous avec Jésus. Et chaque jeu grandit grâce à l'action de Jésus. C'est la même chose dans un couple. La récompense vient après. Alors, regardons bien, c'est un serviteur bien-aimé. Vous vous rappelez que quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, la colombe est descendue sur Jésus, Jean-Baptiste a versé de l'eau, il était trempé bien sûr dans la rivière, dans le Jourdain, mais il a versé de l'eau sur lui, et une voix est venue, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça c'était une prophétie de 8 siècles avant, dans Ésaïe au chapitre 42, verset 1. Et quand Jésus est sur le mont Tabor, sur le mont Hermon, donc au nord d'Israël, avec Pierre, Jacques et Jean, quand la nuée est là, Moïse et Élie sont là, pour bien montrer que la mort n'a pas d'autorité, la mort n'existe pas pour Dieu, eh bien, Jésus est sous la nuée, il nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, c'est un être qui est choyé par Dieu. Vous savez, moi, quand j'ai vraiment été touché par le Seigneur, il m'a fallu, c'est une sacrée bataille, hein, pour accepter de se donner à Dieu, une sacrée bataille, je suis très indépendant, très têtu. Ça a pris du temps, ça, c'était une sacrée bataille. Mais bon, j'avais été percuté vraiment et pratiquement. Par la suite, j'ai vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu. Je vais vous dire franchement, si je n'avais pas connu ça de ma vie, c'est rien du tout. Caca. C'est rien du tout, je vous le dis. Basta. Pas grand chose une vie sans l'expérience de l'amour de Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, verset 5, comme il parlait, encore une nuit lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuit ses paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc ça c'est sur le mont Hermon. Pas sur le mont Tabor. Le mont Tabor, c'est quand il est ressuscité, qu'il y a 500 frères, plus les disciples. Et là, c'est au milieu de la vallée d'Israël, Tabor, à 5 km de Nazareth, mais Hermon, c'est loin, c'est à peu près à 25-30 km de Nazareth et de Tabor. Mais c'est annoncé dans des psaumes, ça s'est produit. Alors, Jésus est choyé par son Père, et Jésus choie, il porte de l'amour à son Père, il porte de l'amour, c'est une relation d'amour. Alors, ça c'est extrêmement important de comprendre pourquoi. Dans Matthieu chapitre 11, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, comment. C'est ce qui doit se passer entre Dieu et moi, entre Dieu et chacun de vous. C'est un amour qui rentre dans la réciprocité. Et c'est quelque chose, arrivé à un stade, et la foi, là, vraiment se construit. La foi se construit parce qu'elle se construit dans la relation avec Dieu. Dieu n'est pas un Dieu lointain, quand on a reçu ce don de la foi. Matthieu 11, versets 25 à 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Bon, il faut d'abord savoir que Jésus se comporte comme un enfant envers son Père. C'est lui le premier, le chef de file. Quand vous voyez Jésus sur des grandes statues, des grandes croix ou des cathédrales, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus de Nazareth. Lisez ça de côté. C'est une civilisation qui a utilisé le nom de Jésus. C'est les vestiges de l'orgueil de l'Empire romain avec Constantin qui ont manipulé le nom et l'image de Jésus pour accaparer tous les citoyens de l'Empire romain, 88 millions d'habitants. Et quand l'empereur s'est cassé le nez en 473, eh bien celui qui se disait le pape, le successeur de Pierre, a pris la couronne. Il l'a mis sur sa tête, à trois étages, celle du souverain pontife, c'est-à-dire souverain empereur. Et il a continué ce jeu en ayant des armées, des soldats, à obliger les gens à être chrétiens. Jamais Jésus n'a fait ça. Jamais. Jésus se comporte comme quelqu'un de humble, tel un enfant qui va vers son père, qu'il aime. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 26. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Donc vous voyez, Jésus a l'attitude de dire « J'ai reçu tout de toi. » Et je t'en suis reconnaissant. « J'ai reçu tout de toi. » Et moi, je te connais bien. Je te connais bien parce que tu m'as tellement donné, tu m'as tout donné. Je te connais tellement dans ton amour, dans ta sainteté, dans ta vérité. Que maintenant je peux te révéler aux autres, je peux te faire connaître aux autres. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est en ça que Jésus est serviteur, c'est qu'il veut nous faire connaître le vrai cœur de Dieu, la vraie personne de Dieu. Pas celui que, par instinct, on croit qu'il est, ou par les traditions. Alors, regardons dans Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Vous savez, Jésus est un Dieu de gratuité, d'oblation totale. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est notre chemin à nous de lui ressembler. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et célébrer dans quelques mois la Pâque, c'est pas vous célébrer encore les cloches qui vont à Rome. Les yeux en chocolat, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas, une soirée présente du Pâques qu'on a comprise. Non, pas du tout. Il faut comprendre qui est Jésus, simplement. Alors on comprend Pâques. Jean, chapitre 17, versets 1 à 2. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, donc il s'adresse à son Père, et dit, « Père, l'heure est venue, donc l'heure de s'offrir sur la croix, pour sauver les hommes, pour payer la dette des hommes. Pour tous les péchés des hommes, il faut payer. Il y a une dette envers Dieu, envers sa sainteté, sa grandeur. Et puis, il y a aussi une colère de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur la terre, nous les hommes? Et ça continue. Hein? Les horreurs, eh bien, pratiquement, il y a une colère de Dieu, eh bien, c'est lui qui va prendre notre place. Pour tout cela. Et l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Donc, sur la croix, au mont des Oliviers, et déjà au moment de la Sainte Cène, quand Judas commence à trahir, à prendre du pain et puis s'en aller, et qu'il a reçu 30 deniers pour trahir Jésus, pour un peu d'argent, eh bien, Jésus dit qu'il est glorifié, parce qu'il se donne absolument, complètement, pour son Père. C'est en ça qu'il est glorifié. Est-ce que nous comprenons que notre gloire, c'est de nous donner à Dieu et de le servir? Notre gloire est d'être à lui et puis à nous-mêmes. Ouh là 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 là! Ça ne va pas, ça ne colle pas avec les idéologies modernes. Mais c'est comme ça. Dans le chapitre 17, au verset 25 et 26, Père juste, juste, intègre, saint, en qui il n'y a pas de mal, en qui il n'y a pas d'injustice. C'est ça que ça veut dire. Le monde ne t'a point connu, ben oui. Mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, l'amour que Jésus connaît avec son Père, il veut la même expérience totale, le même phénomène de relation entre Dieu et nous. Il veut nous réconcilier avec notre Père des cieux. Jésus, c'est le réconciliateur. Jésus veut rétablir la relation perdue depuis le péché d'Adam et Ève. C'est une grande source de force et de paix, je vous le dis, dans les conséquences. Le but d'aimer Dieu n'est pas de profiter des avantages de la relation, mais ce qu'il y a dans les conséquences, la relation profonde et vraie avec Dieu a de grands bénéfices pour notre âme, notre vie, même pour la santé physique, même pour le psychisme, mes amis. Alors, Jésus peut guérir le cœur de l'homme, il le remet en connexion avec l'amour paternel de Dieu. Et vous savez bien que dans le premier aux Corinthiens, c'est l'Esprit Saint qui fait en nous crier vers Dieu, Abba, Papa. Quand on a eu 6 enfants, 7 en fait, il y en a un qui est décédé un peu avant la naissance, 6 sur terre, et pratiquement la dernière, c'était Noémie, pendant des mois, elle ne disait jamais papa et maman dans le berceau. Il disait Abba, Abba. Et donc je disais à Marie-Hélène, c'est plus un hasard. C'est plus un hasard, Abba, elle a reçu le don de la foi. Elle a reçu, elle s'adresse à Dieu avant de s'adresser à son papa et à sa maman. Nous, papa et maman sur terre, quand on a des enfants, c'est pour un temps. Nous sommes des intermédiaires, nous sommes des serviteurs de l'amour de Dieu pour l'enfant. Parce que l'enfant devra retourner vers Dieu et le voir, le connaître. Nous sommes des instruments provisoires. Nous avons un papa et une maman sur terre, parfaits ou imparfaits, qui ont fait bien le rouleau ou mal, mais le vrai Père, c'est Dieu. Notre vrai Père, c'est Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes sur terre font une connexion trop forte entre l'image qu'ils ont eue de leur père et de leur mère et Dieu, le vrai Dieu, que Jésus révèle. Et parfois, ils ont du dégoût pour Dieu. J'ai vu quelqu'un qu'on avait baptisé dans l'église, qui est toujours mort. J'apprends par des autres qui avaient confié ça. Oh, moi, j'aime bien Jésus, mais Dieu le Père, je le déteste. Il avait été baptisé. Il était là au culte depuis des années. Et il m'avait laissé croire des choses. Et en fait, quand il parlait un peu dans le secret avec des autres, bon, j'ai essayé, j'ai été le trouver. Je n'ai pas provoqué la collision en disant, on m'a dit que ça ne sert à rien. Mais je me suis comporté, j'ai donné des témoignages de manière à ce qu'il corrige son image de Dieu. Ben oui, son père l'avait abandonné. Son père s'était jamais occupé de lui. Et il ne porte même pas le nom de son père, parce que son père n'a pas voulu lui donner son nom. Et donc, il était humilié, blessé. Et il fallait qu'il trouve le vrai père. Il y a un seul père pour tous les hommes, c'est Dieu. Et papa et maman, c'est des intermédiaires. Comme le facteur qui amène en boîte aux lettres une lettre, c'est un intermédiaire entre celui qui a fait la lettre et celui qui la reçoit. Les papas et maman sont des intermédiaires. Ce sont des facteurs, point la ligne. Tant mieux s'ils font bien leur boulot. Tant mieux pour eux, tant mieux pour l'enfant que nous sommes. Donc Jésus a donc une vocation, c'est que l'amour de Dieu qu'il vit soit en nous. Que nous fassions l'expérience, une grande expérience. La meilleure des expériences, c'est de connaître cet amour de Dieu. C'est toute manière, après notre mort, et même après la résurrection, c'est la réalité qui nous est destinée. C'est d'être dans l'amour de Dieu, dans sa gloire. Alors, Jésus, est un service à nous rendre, c'est celui-là. Jésus est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 29. Matthieu 11, 29. Je vais prendre 28 là, jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ben oui, on est chargé, on est fatigué de quoi ? Tellement on s'est égaré, tellement on s'est planté, de toutes les conséquences qu'on porte sur nous. Hein ? Quand on voudrait se décoller, se décharger. Et je pense que il faut à un moment donné être tellement fatigué de ce qu'on est, du péché qui nous colle à la peau, qu'on ait envie de lui déposer. Quand vraiment on a fait le tour du problème, alors j'en ai marre de vivre comme ça, d'être comme ça, j'ai envie d'être autre chose, de vivre autrement. C'est le bon moment pour le déposer. Et prenez mon joug, donc c'est ma parole, hein, c'est oracle en grec, prenez ma parole, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Nous voyons que Jésus est doux et humble de cœur. C'est extrêmement important de savoir ça, c'est pas une brute. Ce n'est pas un éléphant qui marche sur des nénuphars ou dans la porcelaine. Jésus nous aime. Il a de l'amour. Il est délicat. C'est parfois nous la brute, plutôt. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Regardez la promesse. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, la parole de Jésus, joug, fardeau, c'est le même mot en grec, mais ce qu'il y a, c'est léger. Il n'assène pas des règlements. Tu feras pas ci, tu feras pas ça, etc. Non, viens à moi et suis-moi. Vis avec moi. Je ferai les délices de ton âme. C'est ça avec Jésus. Donc Jésus a cette douceur qu'on aimerait bien tant avoir nous-mêmes. Il nous manque souvent. Mais si on se laisse conquérir par lui, eh bien, elle vient. Et on finit par être différent avec les autres, alentour de nous, dans le couple, avec les amis, au travail. On finit par être différent, oui. Pourquoi ? Parce qu'on est contaminé par Jésus, par sa douceur, par sa parole douce et légère, qui gagne nos cœurs et qui nous transforme, oui. Et c'est la conversion. En tout cas, c'est les signes apparents de la conversion. Parce que la conversion, c'est d'être avec Jésus. Alors, dans Matthieu 12... Verset 18, Matthieu reprend, Jésus reprend la parole d'Ésaïe le prophète, verset 17 plutôt, chapitre 12, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé à qui mon âme a pris plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et annoncera la justice aux nations. Donc, Ésaïe chapitre 42, verset 1, 780 avant Jésus. Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Donc, il ne va pas casser le pécheur. Parce que le pécheur, c'est comme de la porcelaine, hein, c'est du verre. Hein. Il est fragile, le pécheur. Même s'il se croit fort, il est fragile. Hein. Et il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Le lumignon, c'est-à-dire une bougie, vous soufflez, il y a encore la braise et vous voyez la fumée. Si on envoie de l'oxygène là-dessus, ça se rallume. Et c'est ce que fait Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. La justice, c'est quoi? D'abord, il y a trois sens, le mot justice. Et fait triompher son pardon. C'est-à-dire, il ouvre la porte à Dieu. Il donne le pardon pour ce qu'on est, ce qu'on était, ce qu'on a été. Et puis, il fait triompher quoi? La sainteté. Le deuxième sens du mot justice, c'est la sainteté. C'est le désir de ressembler à Dieu, d'être à lui, en lui, avec lui, pour lui. Et le troisième sens, c'est l'obéissance. Oui, bien sûr, Dieu a donné des codes de la route, des règles. Et l'enfant de Dieu qui a été vraiment pardonné, qui a vraiment reçu le cadeau de l'amour pour Dieu, il doit avoir aussi, et doit accepter d'obéir. Obéir à des principes que Dieu donne, qui sont des principes bons, et qui sont utiles aux autres, pour montrer que tout n'est pas à mettre, le bon et le mauvais, c'est pas la même chose, pour avoir un bon témoignage. Alors, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point l'union qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Donc ce serviteur Jésus vient pour donner de l'espérance. Vous avez déjà vu combien de gens ont de l'espérance actuellement? Les amis, l'espérance est un don de Dieu. Quand il y a la foi, il y a un autre don qui est donné. C'est l'amour, le plus grand. Hein? Et puis un troisième, l'espérance. La parésie, c'est un don. On est animé, on a une vision pour le futur. Et c'est du béton. Alors, Jésus est doux et humble de cœur, mais avec une force incroyable qu'il peut donner. L'espérance. Et le pardon, la justice. Alors, Jésus a une parole douce et légère, nous l'avons vu dans Matthieu, chapitre 11, verset 30, mon joug est doux et humble. Donc, il n'assassine pas les gens à coups de reproche et de culpabilisation. Dans Romains, chapitre 8, verset 1, pour celui qui croit en Jésus, il n'y a point de culpabilité. La pathologie de la culpabilité, soit qu'il y a des choses qui ne sont pas confessées à Dieu, et on les garde en réserve, on ne veut pas les régler, soit il y a une pathologie de la culpabilité, parce qu'on était éduqué à se culpabiliser tout le temps, et il faut casser tout ça, il faut démolir ça, il faut reconstruire, parce que Jésus ne veut pas de relation avec Dieu dans la culpabilité. Le diable veut des culpabilités, c'est son commerce, lui. Après, on donne des sous, on fait des pèlerinages, on construit des cathédrales, et on fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, oui, pour essayer de régler la culpabilité. Quand on est dans la région, autrement, on va au bistrot, on boit une bonne chope, ou on prend du cannabis, ou on fait du sexe, pour oublier la culpabilité. Mais en attendant, si on va vers Dieu avec la culpabilité, ce n'est pas le plan de Dieu. Pas plus que le reste. La parole est douce et légère. Elle fait du bien à l'homme. Elle le transforme. Maintenant, voyons, ce serviteur désintéressé, vous l'avez vu. Hein, dans Jean, chapitre 17. Vous connaissez sans doute ce texte, mais c'est fort important de lire tous les textes. Autrement, on va croire que c'est moi qui invente une histoire de Père Noël. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Regardez ce que Jésus fait. Et le mot connaître dans l'évangile de Jean, c'est une relation. C'est le même mot qu'entre l'homme et la femme quand ils dorment ensemble. C'est qu'ils aient une relation. La vie éternelle, c'est qu'ils aient une relation avec toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez ? Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc Jésus rend gloire à Dieu en rétablissant la relation entre le Père du ciel et moi, le Père du ciel et vous. Jésus rend gloire à son Père comme ça, vous voyez? Et au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Vous voyez, la véritable gloire de Jésus, c'est le service du salut. Le service de remettre l'enfant et le papa ensemble. le vrai service, remettre le papa et l'enfant ensemble, l'homme et Dieu ensemble, dans une vraie relation d'amour et de paix. Au verset, toujours dans le chapitre 17, versets 25 et 26, Père juste, le monde ne t'a point connu, malgré toute la religion, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Tous ces hommes-là et ces femmes qui étaient là avec Jésus ont bien compris que Jésus avait une immense expérience de Dieu, de sa sainteté, de son amour. Qu'il était transparent, comme une vitrine transparente. On pouvait voir la sainteté, la bonté, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu à travers lui. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et je sois en eux. Au point de départ, je vous ai dit que Jésus est choyé par le Père et que le Père est choyé par Jésus. Et bien maintenant, il y a autre chose. C'est que Jésus a pour désir profond que je sois aimé de la même manière que lui. Et que j'aime autant que lui, Dieu. Ah oui. Pour ça, il faut recevoir l'Esprit Saint. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'amour, pour aimer Dieu, il faut une transformation, une nouvelle vie en moi. Autrement, je déteste toujours Dieu, tôt ou tard. Ou je cherche à le manipuler, ou trouver comme prétexte, comme étendard, comme moyen de pouvoir, de domination, d'utilisation. Mais non, le vrai Dieu, c'est pas ça. Donc vous voyez, ce désir de Jésus, c'est vraiment que tout cet amour qu'il y a entre lui et son Père soit en nous, et réciproque. Hein? Je vous ai dit qu'il n'y avait rien de narcissique dans la foi. C'est clair. Alors, Jésus est un serviteur désintéressé, évidemment, pour parler comme ça. Parce que, puisque... il souhaite la même chose pour nous tous sur la terre que pour lui. Il est désintéressé. L'attitude même de Jésus, c'est le désintérêt. Alors, Jésus se fait familier. Prenons Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Et quand, au verset 14 et 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, pas commander comme l'empereur de Rome commandé, comme Pilate ou Hérode. Donc, ce que je vous recommande, ce que je vous dis qui est bon, je vous le recommande. C'est ça que je veux dire. Hein? Jésus n'a jamais pris un bâton, tu vas obéir, et puis paf. Pas du tout. Il n'a pas fait d'inquisition. Ça, c'est les jésuites, Torquemada, qui a fait ça. Alors, ils sont prêts à le refaire. S'ils avaient la possibilité de le refaire. Alors, Jésus propose son amour. Jean 15, verset 12, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, recommande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Le fruit de cette élection, Seigneur, tu m'aimes, ben oui, j'accepte. J'accepte d'être choisi, alors Seigneur, porte du fruit en moi. Porte du fruit en moi. Je voudrais bien que tout ce que tu veux me donner demeure en moi, ça ne passe pas par une oreille, ça ressort par l'autre. Ça ne passe pas d'une main et que je dilapide ton amour. Seigneur, il est précieux. J'ai envie de garder tout ton amour et ta personne comme un trésor dans ma vie. C'est ça, le vrai ami. Un vrai ami, ça ne lâche pas quelqu'un. Il faut copain, c'est un beau coup. C'est l'image de la fidélité et de la familiarité, de la proximité. Vous voyez ? Et Matthieu 12, versets 48 à 50. Matthieu 12, versets 48 à 50. Je pense que l'heure passe. Quelle heure est-il ? Midi 5. Midi 5, oui. Malheureusement, il faudra arrêter. Ça sera pour le dimanche prochain, la suite. Matthieu 12, versets 48 à 50. Jésus répondit à celui qui je lui disait. Ah ben, je vais commencer au 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, les comportements humain, c'est celle-là ma mère, c'est celui-là mon père, les autres ça compte pas. C'est celui-là mon frère, etc. Ou alors l'inverse. Je veux plus les voir, non merci. Hein? C'est toujours passionnel. C'est toujours basé sur la passion et sur l'instinct. Le problème pour Jésus, ni la passion ni l'instinct ne comptent. Seule la vérité. Pour qui suis-je capable de donner ma vie? Pour qui suis-je capable de rendre service jusqu'au bout? Jusqu'au bout, tant que je respire. Celui-là, c'est mon frère, celui-là, c'est ma soeur, celui-là, c'est ma mère. Pour qui suis-je capable d'être à l'écoute et désirer de le rencontrer toute ma vie comme Jésus le fait pour moi? Ça, c'est le vrai frère, la vraie sœur dans la foi. C'est le vrai frère, la vraie sœur, la vraie mère, le vrai père, sous les regards de Dieu. Voilà ce que Jésus a voulu dire. C'est vachement exigeant, oui. C'est vachement radical, en tout cas. Exigeant, je pense qu'on n'est pas capable tout seul. Heureusement que Jésus est là. Heureusement que Jésus nous pardonne nos défaillances. Heureusement que Jésus revient toujours et que l'Esprit Saint nous aide, que sa parole est là. Et qui a des frères et des sœurs dans l'Église pour s'aider, s'entraider, à s'encourager? C'est sûr que les exigences sont tellement grandes. Pardonner cette fois, cette temps, cette fois. Bannir la colère de notre vie. Hein? C'est quand même trop pour moi, comme pour vous. Et pratiquement, si Dieu vient à mon secours, c'est possible. Je fais le chemin avec le Seigneur et il m'apprend à le faire. Il me fait progresser pour que je devienne ce que je ne suis pas, mais que lui espère pour moi. Il espère que je devienne saint. Ben oui. Ben dis donc. Il est vachement fort, le Seigneur Jésus, de faire de moi, d'un lustucru, d'un tordu, un jour un saint. Ben oui, je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je m'abandonne à lui. Je lui donne le peu que je peux donner et lui me donnera tout ce que j'ai besoin pour devenir semblable à lui. Voilà. Et ça, c'est important, les amis. C'est que Jésus offre le meilleur de soi. Dans Matthieu 18, 11 à 14, et comme il est Dieu, il peut offrir énormément, les amis. Quand je suis en rage contre quelqu'un, contre ma femme, combien de fois on s'est disputé, nous deux? Oh là 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 là, le Seigneur, ne nous prenez pas pour des petits saints, hein? On n'en est pas. Hein? Eh bien, c'est lamentable. C'est déjà bouffé le trognon, mais c'est terrible. Alors, pratiquement, s'il n'y avait pas le Seigneur pour nous faire... Le Seigneur nous fait rougir de nos comportements. Et puis, ah, qu'est-ce qui va faire le premier pas? Demander pardon. Oh ben là, les premières années de mariage courent toujours. Hein. C'est pas moi qui ferai le premier pas. Oh, Mais à la longue, on sait très bien que plus on retarde à se demander pardon, plus on souffre, plus on perd des journées, on perd des semaines dans le cambouis, dans l'obscurité. Alors, ben vite, dépêchons-nous de nous pardonner, de nous réconcilier. Ah oui, à la longue, avec l'âge, on a compris, ça ne sert à rien de faire l'idiot. Il vaut mieux céder, ah oui. Ah ben oui, avec le Seigneur Jésus, on apprend à céder à la vérité. On ne cède pas à l'autre. Ah oui, parce qu'on n'a pas envie de céder à l'autre. Hein. Mais on cède à la vérité. Le ciment des deux, de l'homme et de la femme, c'est Jésus. On cède à Jésus. Et ça rend service aux deux. Vous voyez que le programme de sainteté de Jésus est à l'action. Il peut être en action tous les jours. Donc, Jésus offre le meilleur de soi pour nous. Matthieu 18, verset 11. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Ben oui. Considérons-nous comme des perdus. Et ça sera déjà honnête. Que vous en semble-t-il? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Alors nous, on pense qu'on est toujours dans les 99 qui sont bien. Hein? L'autre qui s'est égarée, c'est Seigneur. Hein? Oui, tu parles. Mais non, c'est nous la centième qui est perdue. Qui est en train de faire des choses qu'il ne faut pas, de se comporter, de vivre comme Dieu ne veut pas. Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Qu'est-ce que fait Jésus, les amis? Il offre le meilleur de soi. Sa joie d'être avec moi. Celui qui veut vivre avec le Seigneur et qui veut progresser, il fera l'expérience de la joie du Seigneur d'être avec moi. Ça, c'est un grand cadeau. Ça ne vient pas tout de suite. Ça ne vient pas tout de suite. Mais d'avoir, de ressentir et de savoir que le Seigneur est dans la joie quand je suis près de lui, que j'abandonne mes prérogatives, mes foutues manies et tête de nœud, sac de nœud. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, mais c'est moi. Bien sûr que c'est moi, c'est pas l'autre, c'est pas les autres. Et s'il la retrouve, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Petit. Il y a deux mots en grec, technon ou nepioi, et ça veut dire, parfois à certains moments, on traduit mes bien-aimés, mes enfants. Donc, avec affection, Jésus, quand il me voit m'égarer et pécher, avec affection, il va venir me chercher. Avec affection. Est-ce que je vais le laisser venir me chercher? Est-ce que je vais me laisser gagner par le meilleur qu'il y a? Le meilleur qu'il y a dans tout l'univers, c'est l'amour de Jésus pour moi. L'amour de Dieu pour moi. Fini le tunnel tout noir sans lumière au bout. Fini la maîtrise du péché sur moi. Fini cet esclavage de la méchanceté, de l'impureté, de tout qui me domine, que je n'arrive pas à me débarrasser. Parce que je me laisse gagner par l'amour. Je me laisse séduire. Jésus dit dans Jean, je ne me rappelle plus la citation, c'est dit, quand j'aurai été élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et le mot attiré, là, d'un nouveau, dans la langue grecque, c'est « je séduirai ». Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas lui imposer de l'aimer. On s'approche, et puis on espère, on se comporte. Pourquoi? Ben parce que si l'autre est touché, ben oui, il m'accepte. Eh oui, c'est une relation, les amis. Ce n'est pas une domination. Voilà la foi. Jésus, un Dieu de gratuité et d'oblation totale, d'affection totale, de vérité totale pour moi, et qui m'invite à une vérité totale pour lui et pour les autres. Voilà le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse cette semaine, qu'il nous dirige, qu'il nous éclaire. J'ai fait ce que j'ai pu, les amis. Je me pose souvent la question de ce que je veux dire le dimanche. Ce n'est pas pour le plaisir de parler, c'est simplement pour que Jésus soit dans vos vies, dans la mienne. Amen.